et quelques informations en deux noirs, deuxième partie. Et donc je vais débuter la prochaine chronique en vous racontant une légende, ou plutôt une mythologie, celle des Indiens Wayana en Guyane, histoire qui va commencer par les mots de Colaniel. Il y eut le temps de tous les commencements, le temps des Genèses, un temps infiniment lointain où se croisaient mythes et récits, un temps qu'évoquaient encore parfois les anciens, transmis de vieillard en une chaîne millénaire, un temps jamais écrit, légué par cette parole qu'on disait emplie d'un pouvoir immense, un pouvoir reconnu comme celui des origines, le pouvoir de tresser le monde, le pouvoir de créer, tout simplement. C'était le temps où, par les mots, le Créateur façonnait le premier des mondes. Et dans ce monde, les hommes pouvaient se métamorphoser en d'autres humains ou en animal. Mais les hommes mécontentèrent les dieux, et pour les punir, les dieux jetèrent les hommes, leur enlevèrent leur pouvoir, et firent s'effondrer le ciel sur eux. Et donc, par le ciel effondré, c'est le titre du quatrième de roman de Colaniel en Guyane, qui pense Guyane en compagnie de Colaniel, pense capitaine Anato. Certes, il est présent, il est même très présent, mais il est quand même relégué au second plan, pour faire face à un autre gendarme, qui s'appelle Angélique Blackaman. C'est une noire marron comme lui. Et je vais encore lire un petit extrait de ce magnifique roman pour vous présenter l'adjudante. L'adjudante avait rejoint la brigade 18 mois plus tôt, précédée par sa réputation. C'était un peu une fleur qu'on lui fait, avait expliqué le général en annonçant son arrivée à Vigier. Revenir en Guyane, après plusieurs années dans l'Hexagone, affectation obligatoire de début de carrière. À Marie Passoula en plus, là où elle avait grandi, la hiérarchie avait dit oui. Ce qu'elle avait fait pour justifier ce traitement de faveur, les collègues ne le savaient que partiellement. Les rumeurs, les titres dans les journaux à l'époque, tout le monde avait entendu parler de cette prise d'otage dans un gymnase de Normandie, qui aurait pu tourner beaucoup plus mal. Le nom de Blackaman n'était cité nulle part, aucun détail sur sa contribution personnelle. Mais, pour avoir récolté la médaille de la gendarmerie, avec citation à l'ordre de la brigade, elle avait dû jouer un rôle important dans le sauvetage des 7 civils. Et y laisser plus qu'un bout de visage. Voilà, Angélique, on va la suivre tout au long de ce roman, et c'est une battante, et prise de justice et d'équité, mais avec ce morceau de visage en moins, son passé est très lourd. Alors, lorsque le Wayana Tapuipli, je ne suis pas sûre de la prononciation. D'ailleurs, Wayana, je ne vous ai pas expliqué en gros ce que c'était. Wayana, ce sont des Amérindiens, c'est une des 6 ou 7 tribus d'Amérindiens qui peuplent en petits villages long des fleuves de Guyane et en particulier le fleuve Maroni. Et donc là, ça se passe en pays du Haut Maroni. Donc, ce Wayana, Tapuili, l'appelle au secours pour retrouver son fils Tipoy, qui est disparu, qui vient de disparaître. Tipoy, c'est un jeune adolescent. Et elle va se jeter à corps perdu dans cette enquête, à corps perdu, pas pour tout le monde d'ailleurs, dans ce Haut Maroni, où les coutumes ancestrales, toujours vivaces, tendent à disparaître. Il y a peu de chances de retrouver l'adolescent vivant. Il y a tant de raisons dans ce pays qu'il soit mort, soit assassiné, beaucoup de trafic, ou alors encore suicidé. Et ça, c'est une chose que nous apprend Colaniel dans ce roman. La jeunesse guyanaise, c'est 50% de la population, 50% de diplômes, 50% au chômage. Et le plus gros taux de suicide. Et pendant que l'adjudante remue ciel et terre pour retrouver Tipoy, on va retrouver Anato et sa brigade qui vont être confrontés à une série de cambriolages très violents. De plus, la politique et l'économie vont s'en mêler quand les gendarmes vont devoir aussi enquêter sur les syndicats des orpailleurs d'une personne qui dirige depuis pas longtemps ce syndicat, qui s'appelle Evelyne Bienvenue, qui est un des personnages principaux de ce roman. C'est une créole. Elle semble vouloir assainir la filière de l'or et surtout, agir et casser les trafics odieux qui asservissent des milliers de pauvres migrants et génèrent beaucoup de violence dans le monde de l'orpaillage. Et puis aussi, essayer d'abolir les vieilles pratiques, l'extraction avec des poisons, enfin, des choses absolument catastrophiques. Et toutes ces enquêtes vont se mêler et s'en mêler dans des décors époustouflants. parce qu'évidemment, la nature est omniprésente, oppressante, étouffante. Elle fait partie de l'âme des habitants de la Guyane, ainsi que les légendes et les croyances qui rythment encore la vie de chaque ethnie. Même si, et ça c'est au cœur aussi du roman de Colin Niel, l'église baptiste évangéliste fait de plus en plus d'adeptes. Gommant, et ça c'est vrai de tout principe colonisateur, ce qui permet à ce peuple de vivre en harmonie avec leur terre, même si cette terre ne leur appartient plus vraiment depuis longtemps. Les multiples investigations, qui s'apparentent souvent à des aventures incroyables, permettent à Colin Niel, toujours aussi habile dans sa narration, de nous montrer la complexité et les difficultés dans lesquelles les Amérindiens et les autres peuples se débattent. Ici, on est dans un univers très viril. Mais, contrairement aux trois autres, ce sont les femmes qui vont mener le jeu. Angélique, je l'ai déjà cité, Evelyne, je l'ai déjà cité, mais aussi Laetitia, une prostituée, ou encore Tania Shah, anglophone, et tant d'autres figures qui font battre le cœur de ce pays si méconnu. L'écrivain, comme à son habitude, décrit par petites touches subtiles, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, mais aussi, et c'est le plus important, beaucoup de respect, les coutumes ancestrales qui se heurtent à cette vie hyper consumériste. Un miroir aux alouettes pour beaucoup, beaucoup particulièrement les jeunes du pays. Et on peut encore une fois se poser la question, mais pourquoi le ciel s'est-il un jour effondré ? Voilà, je rappelle le titre, Sur le ciel effondré, et je ne rappelle pas parce que je ne l'ai pas encore dit, ce roman est sorti très récemment aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. Un peu de musique, Jacques.
Un peu de musique qui est sans aucun rapport. On va écouter un extrait du nouvel album du guitariste Marc Ribot. L'album s'appelle Song of Resistance, les chants de résistance donc en français. Et là, on va écouter un duo avec Tom Waits. Et le morceau qu'on va entendre est un morceau très connu, mais là, il est dans sa version anglaise, c'est Bella Ciao. Donc, Marc Ribot et Tom Waits.
One fine morning, I woke up early. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. One fine morning, I woke up early. To find the fashions at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. Partigiano, bella ciao, goodbye, beautiful. Bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people. People passing, bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, can say, oh, what a beautiful flower. Thank you. the flower of the partisan. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. This is the flower of the partisan. Died for freedom. This is the flower of the partisan who died for freedom.
Bon ben voilà, après cette belle chanson de Tom Waits et Marc Ribot, ben nous allons revenir au bord de la Méditerranée, mais cette fois-ci de l'autre côté, en Algérie, avec un roman d'Adeline Mehdi nommé 1994, qui est paru tout récemment chez Rivage Noir. En Algérie, donc, à Alger, dans Alger la Blanche. Mais ce roman, c'est plutôt Alger la Noire, hélas, encore et toujours, et même parfois Alger la Rouge. En 1994, les islamistes et les services de sécurité s'affrontent presque au quotidien depuis de longs mois. Quatre amis, Amine, Sidali, Nofel et Farouk sont des lycéens à El Arach, la grande banlieue d'Alger. Ils pourraient vivre une simple vie de jeunes, le lycée, les filles, les premiers amours, la bière ou le vin qu'on boit en cachette dans l'ancien bois des Pères Blancs. Mais, lassés de voir des proches mourir et de ne pouvoir faire confiance à la police violente, dépassée et inefficace, ils vont décider de passer à l'acte, s'occuper à leur façon de ces terroristes. Car comme beaucoup, ils en connaissent. Ils iront jusqu'au meurtre, un seul, celui du frère de la petite amie d'Amine. Au milieu d'un affrontement entre barbu et barbouze, il fallait choisir, mais cela va briser leur vie. 10 ans plus tard, en 2004, c'est au début du roman, le père d'Amine décède. C'était un officier supérieur de l'unité de lutte contre ces fameux terroristes. Un tout-puissant, vaincu seulement par la maladie. Amine, au décès de son père, va péter les plombs et se retrouver interné en psychiatrie dans un hôpital militaire. C'est pas forcément une très bonne... Sidali, lui, est exilé en France. Il va revenir et essayer de sauver son ami, au moins de le revoir. Pendant ce temps-là, un général cherche toujours à savoir ce qui s'est vraiment passé 10 ans auparavant. En parlant de ce roman, Adeline Mehdi évoque Robin Cook, qui expliquait dans... J'étais Dora Suarez n'était pas seulement un roman noir. Il allait beaucoup plus loin pour devenir un roman en deuil. 1994 est un roman en deuil. Un roman de deuil. Un texte, je cite Adeline Mehdi, un texte qui parle des morts en parlant aux vivants, pour penser à ceux qui sont partis, peut-être, et aussi, surtout, pour tutoyer la douleur de ceux qui restent, tutoyer la vie de ceux qui restent, qu'elle soit ruine ou avenir. Mais c'est aussi surtout un roman sur la guerre des pères qui devient celle des fils. Un court passage, au début des années 60, nous rappellera la genèse de ceux qui sont au pouvoir maintenant, dans les voitures blindées armées jusqu'aux dents. Ils étaient eux-mêmes des terroristes, à l'époque face à l'occupant français, dans cette guerre qui n'a jamais voulu dire son nom. Adeline Mehdi, qui est née en 1975 à El Arach, était très proche de cette histoire qu'il raconte. Il aurait pu être l'un de ces quatre gamins. On sent que c'est un livre qu'il fallait qu'il écrive. Il a une écriture poétique mais fiévreuse. Elle change, varie en fonction des époques, des personnages. Quand Amine, l'un des quatre, si peu héros du roman, au tout début devient maladivement confus, l'écriture d'Adeline Mehdi semble le devenir aussi. Non pas pour égarer le lecteur, mais pour le rapprocher de l'état d'agitation fébrile dans lequel s'abîme hélas Amine, un Beretta 1981 à la main. Un Beretta 81 à la main. Son écriture peut devenir aussi très sèche, et pourtant il maintient une tension narrative tout au long de ses 300 pages. Mais, malgré tout, il conserve dans son écriture une distance avec ses personnages. C'est eux, pas lui. Il ne juge pas leur action, mais il fallait qu'il revienne, selon ses propres termes, sur ce passé en embuscade dans son fort intérieur. Son précédent roman, La prière des morts, paru chez Gégal en 2010, nous avait déjà beaucoup plu. Celui-ci est un ton au-dessus, dans le fond comme dans la forme, un véritable coup de cœur, et souhaitons qu'il ne nous faille pas attendre aussi longtemps pour lire le suivant.
1994, donc dis-moi Jacques, Adeline Mehdi est algérien. Je crois même qu'il était journaliste dans l'un des plus grands quotidiens, El Watan. Est-ce que ce livre a été écrit en arabe ou est-ce qu'il est traduit ou est-ce qu'il a été écrit directement en français ?
Non, il a été écrit directement en français. Oui, il a longtemps été journaliste à El Watan, qui est un journal en langue française en Algérie. Et ce roman, comme les précédents, ont été écrits en français.
Et ben, on peut espérer
dans un très beau français, d'ailleurs.
On peut espérer qu'Adeline Mehdi donc fasse une petite tournée en France et donc vous pourrez lui parler en français, ce qui est toujours une bonne chose, même si on a d'excellents traducteurs en France. Je rappelle les livres dont nous vous avons parlé dans cette émission. On a essayé de vous choisir dans cette rentrée littéraire où bien évidemment il y a pléthore de livres, qu'ils soient noirs ou pas. On a essayé de vous choisir des romans très différents les uns des autres et puis surtout parmi les meilleurs, ceux que l'on préfère. On a retrouvé au début nos deux amis Salvo Montalbano en Sicile et Raoul Signoret à Marseille. Et puis, on a évoqué le magnifique livre de Nicolas Mathieu, paru aux éditions Actes Sud, qui s'appelle « Leurs enfants après eux ». Deuxième partie d'émission, je rappelle « Sur le ciel effondré », de Colin Niel, paru aux éditions du Rouergue. Et enfin, Jacques, tu viens de nous parler de ce roman de deuil, ce roman en deuil, le très beau roman d'Adeline Mehdi qui s'appelle 1994 et qui vient de paraître aux éditions Rivage.
Et d'ailleurs, je repense que le morceau qu'on avait mis en première partie de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, pourrait très bien illustrer aussi ce roman d'Adeline Mehdi, parce que ces pauvres adolescents, ils sont...
Encore un roman sur des adolescents en prise avec leur époque. Eh bien, on va reprendre notre phrase traditionnelle. On va vous souhaiter, on va vous dire au revoir et puis vous souhaiter d'être chacun dans votre coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs. Au revoir,
merci,
à bientôt.
Au revoir.